L'invité de Reuilly.
Robert d'Artois, pendant la saison chaude, et quand le service du royaume et les soucis de son procès lui en laissent le temps, aime à passer les fins de semaine à Reuilly, dans un château qui appartient à sa femme par héritage valois. Les prairies et les forêts entretiennent une agréable fraîcheur autour de cette demeure. Robert garde là son oisellerie de chasse. La maisonnée est nombreuse, car beaucoup de jeunes nobles, avant d'obtenir la chevalerie, se placent chez Robert pour y être écuyer, sommelier ou valet de sa chambre. Qui ne parvient pas à entrer dans la maison du roi, s'efforce d'être attaché à celle du comte d'Artois, se fait recommander par des parents influents et, une fois accepté, cherche à se distinguer par son zèle. Tenir la bride du cheval de monseigneur, lui tendre le gant de cuir sur lequel se posera son faucon muscadin, apporter son couvert à table, incliné sur ses puissantes mains léguières à eau, c'est s'avancer un peu dans la hiérarchie de l'État. Venir secouer son oreiller au matin pour l'éveiller, c'est presque secouer l'oreiller du bon Dieu, puisque Monseigneur, chacun s'accorde à le dire, fait à la cour la pluie et le beau temps. Ce samedi du début de septembre, il a invité à Reuilly quelques seigneurs de ses amis, dont le sire de Brécy, le chevalier de Hengest et l'archidiacre d'Avranches, et même le vieux comte de Bouville à demi-aveugle, qu'il a fait prendre en litière. Pour ceux qui voulaient se lever matin, il a offert une petite chasse au vol. À présent, ses hôtes sont réunis dans la salle de justice où lui-même, en vêtements de campagne, se tient familièrement assis dans son grand faux-desteuil. La comtesse de Beaumont, son épouse, est présente, et aussi le notaire Tesson, qui a posé sur une table son écritoire et ses plumes. « Mes bons sires, mes amis, dit-il, j'ai requis votre compagnie afin que vous me portiez conseil. » Les gens sont toujours flattés qu'on requiert leur avis. Les jeunes écuyers nobles présentent aux invités les breuvages d'avant-repas, les vins aux aromates, les dragées épicées et les amandes émondées sur des coupes de vermeil. Ils sont attentifs à ne faire ni bruit ni faute en leur service. Ils ouvrent tout grand leurs yeux, ils se préparent des souvenirs. Ils diront plus tard « J'étais ce jour-là chez Monseigneur Robert. Il y avait le comte de Bouville qui avait été chambellan du roi Philippe le Bel. » Robert parle posément, sérieusement. Une certaine dame de Divion, qu'il ne connaît que peu, s'est venue proposer pour lui remettre une lettre qu'elle tient avec d'autres de l'évêque Thierry d'Hirson, dont elle était la douce amie, confie-t-il en baissant un peu la voix. La Divion demande argent, naturellement, ces femmes-là sont toutes de même sorte, mais le document semble d'importance. Toutefois, avant de l'acquérir, Robert veut s'assurer qu'on ne le gruge pas, que cette lettre est bonne, qu'elle peut servir comme pièce à son procès et que ce n'est pas là quelque œuvre de faussaire fabriquée seulement pour lui soutirer monnaie. C'est pourquoi il a convié ses amis, qui sont d'avis sage et plus habiles que lui en matière d'écrit, à examiner la pièce. De temps en temps, Robert lance un coup d'œil à sa femme pour s'assurer de l'effet produit. Jeanne incline la tête imperceptiblement. Elle admire la grosse malice de son époux. Et comme ce géant retors joue bien les naïfs quand il veut tromper. Il fait l'inquiet, le soupçonneux. Les autres ne vont pas manquer d'approuver si bonne lettre. Ayant approuvé, ils ne se dédiront plus de leur opinion, et à travers les milieux de la cour et du parlement se répandra la nouvelle que Robert tient en main la preuve de son droit. « Faites entrer cette dame Divion !» dit Robert avec un air sévère. Jeanne de Divion apparaît, bien provinciale, bien modeste. De la guimpe de lin sort son visage triangulaire, aux yeux cernés d'ombre. Elle n'a pas besoin de contrefaire l'intimider, elle l'est. Elle sort d'une grande bourse d'étoffe un parchemin roulé, d'où pend de plusieurs sceaux, et le remet à Robert, qui le déploie, le considère un moment, puis le passe au notaire. « Examinez les sceaux, maître Tesson. » Le notaire vérifie la tache des lacets de soie, incline sur le velin son énorme bonnet noir et son profil en croissant de lune. « C'est bien le sceau du feu comte de votre grand-père, monseigneur, » dit-il d'un ton convaincu. « Voyez, mes bons sires, » dit Robert. On se transmet le document de main en main. Le sire de Brécy confirme que les sceaux des bailliages d'Arras et de Béthune sont excellents. Le comte de Bouville approche la pièce de ses yeux fatigués. Il ne distingue que la tache verte au bas de la lettre. Il palpe la cire douce sous le doigt et les larmes s'échappent de ses paupières. Ah ! Murmure-t-il, le sceau de cire verte de mon bon maître Philippe le Bel. Et il y a un moment de grand attendrissement, un instant de silence, où l'on respecte les longs souvenirs de ce vieux serviteur de la couronne. Ladivion, qui se tient en retrait contre un mur, échange un regard discret avec la comtesse de Beaumont. « À présent, lisez-nous cela, maître Tesson !» commande Robert. Et le notaire, ayant pris le parchemin, commence. « Nous, Robert de France, père et comte d'Artois !» Les formules initiales ont la tournure habituelle. L'assistance écoute avec calme. « Et si déclarons en présence des seigneurs de Saint-Venant, de Saint-Paul, de Velpeil, chevaliers qui scelleront de leur sceau et de maître Thierry d'Irson Montclair ?» Quelques regards se sont portés vers Ladivion qui baisse le nez. « Habile, habile d'avoir mentionné l'évêque Thierry, » pense Robert. « Cela authentifie les témoignages sur son rôle. Tout cela s'enchaîne bien. » Que lors du mariage de notre fils Philippe, nous lui avons fait investiture de notre comté, nous en réservant la jouissance notre vie durant, et que notre fille Mao y a consenti et qu'elle a renoncé à la dite comté. Ah, mais c'est chose capitale, cela, s'écrie Robert. C'est plus que je n'attendais. Jamais nul ne m'avait dit que Mao eût consenti. Vous voyez, mes amis, quelle est sa vilainie. Continuez, maître Tesson. Les assistants sont fort impressionnés. On hoche la tête, on se regarde. Oui, la pièce est d'importance. Et à présent que Dieu a rappelé à lui notre cher et bien-aimé fils le comte Philippe, demandons à notre seigneur le roi qu'il nous vient qu'à la guerre Dieu fasse sa volonté de nous, que notre seigneur le roi veille à ce que les oires de notre fils n'en soient pas déshérités. Les têtes continuent d'approuver avec dignité. Le chevalier de Hengest, qui est du Parlement, écarte les mains en direction de Robert d'un geste qui signifie « Monseigneur, votre procès est gagné ». Le notaire achève. « Et avons ceci scellé de notre sceau en notre hôtel d'Arras, le 28e jour de juin de l'an de grâce 1322 ». Robert ne peut réprimer un sursaut. La comtesse de Beaumont pâlit. Ladivion contre son mur se sent mourir. Ils ne sont pas les seuls à avoir entendu 1322. Dans l'auditoire, les têtes se sont tournées avec surprise vers le notaire, qui lui-même donne quelques signes d'affolement. « Vous avez lu 1322 ?» demande le chevalier de Hengest. « C'est 1302 que vous voulez dire, l'année de la mort du comte Robert. » Maître Tesson voudrait bien pouvoir s'accuser d'un lapsus, mais le texte est là, sous ses yeux, portant clairement 1322. Et l'on va demander à revoir la pièce. Comment cela a-t-il pu se produire? Ah, monseigneur Robert va être d'une humeur. Et lui-même, Tesson, dans quelle affaire s'est-il laissé engager? Au Châtelet, c'est au Châtelet que tout cela va finir. Il fait ce qu'il peut pour réparer le désastre. Il bredouille. Il y a un vice d'écriture. Mais oui, bien sûr, c'est 1302 qu'il faut lire. Et prestement, il trempe sa plume dans l'encre, rature, biffe quelques lettres, rétablit la date correcte. « Est-ce bien à vous de corriger ainsi ?» lui dit le chevalier de Hengest d'un ton un peu choqué. « Mais oui, messire, dit le notaire, il y a deux points marqués sous le mot, et c'est l'habitude des notaires de corriger les mots mal écrits, sous lesquels des points sont mis. « Cela est vrai !» confirme l'archidiacre d'Avranches. Mais l'incident a détruit toute la belle impression produite par la lecture. Robert appelle un écuyer, lui commande à l'oreille de faire hâter le repas et puis s'efforce de ranimer la conversation. « En somme, maître Tesson, pour vous, la lettre est bonne. »«
Certes, monseigneur, certes, » s'empresse de répondre Tesson.
« Et pour vous aussi, messire l'archidiacre. »«
Je la pense bonne. »
Peut-être, dit le sire de Brécy d'une voix amicale, devriez-vous la faire comparer avec d'autres lettres du feu comte d'Artois de la même année. Eh, le moyen, mon bon, répond Robert, le moyen de comparer quand ma tante Mao tient tout en ses registres. Je crois la pièce bonne. On n'invente pas pareille chose. Moi-même, je n'en savais pas tant, et particulièrement que Mao eût renoncé.
À ce moment, une sonnerie de trompe résonne dans la cour. Robert frappe dans ses mains.
« On corne l'eau, messeigneurs. Passons à nous laver les doigts et allons dîner. »